Radio Okapi.
Mois de mars, le mois marqué par de nombreuses activités en faveur des droits de la femme, ça se célèbre déjà ce 8 mars. Ainsi, dans cette édition, nous faisons avec vous une randonnée à travers le pays pour vivre cette première journée des commémorations avec en toile de fond le lancement ici à Kinshasa de la foire de l'entrepreneuriat féminin par la ministre de la Culture. Annoncée pour le 2 juillet prochain, la visite du pape François ici à Kinshasa et à Goma se prépare déjà. Dans le Nord Kivu, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, que vous suivez dans ce journal, a rencontré avec une forte délégation le gouverneur du Nord Kivu pour en parler afin de se fixer sur les préparatifs. Avec notre invité Jaël Kayiba Ilunga, présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Maniema, nous parlons de ce manque du pouvoir économique chez la femme de cette province et ce qu'il lui faut. Merci de nous faire confiance pour votre information. À toutes les femmes qui nous suivent, bonne condition d'écoute, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Elle est célébrée cette année en RDC sous le thème « L'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes ». Parmi les activités organisées ici à Kinshasa, on compte la foire de l'entrepreneuriat féminin tenue ce jour à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la ministre de la Culture qui a lancé cette activité en présence des représentants de la ville, du patronat et des nombreuses femmes des ministères et des entreprises notamment. Ce reportage de Dandy Bombela est rendu par Jiré Anania.
L'ambiance était à la fête, à la réjouissance, c'est mardi 8 mars à l'Académie des Beaux-Arts. Les femmes sont venues nombreuses habillées en pagnes de différentes couleurs pour l'événement. Plusieurs stands étaient visibles, différents produits étaient exposés. C'est notamment les œuvres d'art, des livres, les différentes créations en tissus imprimés. La ministre de la Culture représentant sa collègue du genre donne le sens de cette activité, Catherine Fourara-Katundu.
Le cadre des Beaux-Arts a été choisi parce qu'il y a encore un environnement sain. Il y a des arbres, de l'herbe, de la fraîcheur. Nous pensons que c'est un lieu d'inspiration pour que les femmes entrepreneuses sachent qu'en faisant leur travail de tous les jours, elles doivent contribuer à la protection de l'environnement.
Parmi les femmes présentes, Joséphine Sokomaï de la Croix-Rouge de la RDC explique comment contribuer à lutter contre le changement climatique.
Ce que j'ai retenu, les femmes peuvent lutter aussi contre le réchauffement climatique. En donnant un exemple, que chaque personne peut avoir un arbre dans sa maison. Si vous coupez un arbre, vous plantez des. Nous devons distinguer quel déchet peut enrichir le sol.
Les activités du mois de la femme se poursuivent bien au-delà du 8 mars.
Au sud Kivu, beaucoup des femmes optent pour le commerce des fruits et légumes dans les rues de Bukavu. Malgré le maigre bénéfice de cette activité, elles arrivent quand même à scolariser leurs enfants, mais surtout à nourrir leur ménage. Cynthia Bachizi est allée à la rencontre de l'une de ces femmes vendeuses des fruits et légumes. Voici son reportage.
Celle qu'on appelle affectueusement Maman Rose est une veuve qui est à la cinquantaine révolue. À pied ou en transport en commun, cette mère de 7 enfants quitte tous les jours son domicile à Kavumu, situé à plus de 30 km au nord de Bukavu. Direction le centre-ville de Bukavu où elle vend des avocats, mais aussi du maïs depuis plusieurs années. Malgré toutes les difficultés dont elle nous a fait part, nous sommes frappés par son sourire à fossette qui semble intemporel car il ne la quitte pas tout le long de notre entretien. Témoignage.
Ces bassins d'avocats équivaut 15 000 et ou 20 000 francs que j'arrive à payer. Si j'avais suffisamment de moyens, je peux même me payer plus que ça. Me procurer même un avocatier équivalent à 100 000 francs pour plus de gains. C'est grâce à ce commerce que je parviens à scolariser les enfants et les nourrir. Je demande aux autres femmes de venir se joindre à nous, que l'on travaille ensemble, en vue qu'elles trouvent comment nourrir leurs enfants, car certaines d'entre elles ne se soucient pas de leur présence.
Comme Maman Rose, beaucoup de femmes vendeuses de fruits et légumes ont des points de vente de fortune dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que certains experts interrogés plaident pour la création d'un grand marché moderne de fruits et légumes dans cette ville. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, le stade Lumumba abrite les cérémonies de la journée internationale de la femme ce mardi dans la ville de Baraka. On peut observer plusieurs corporations des femmes en pagne faire le défilé devant la mairie de la ville, Emérite Tabisha. Cette ancienne activiste des droits de la femme est jadis très active dans la société civile et responsable de l'ONG FESA. Une femme qui en soulève une autre appelle la communauté locale de Baraka à vivre en cohésion avec l'autre communauté des Bibogobogo dans les moyens plateaux du secteur de Mutambala. Fiston Goma.
Emérite Tabisha s'est impliquée personnellement dans les préparatifs pour donner à cette journée toute son importance. Jugée exceptionnelle par sa communauté, cette maire de la ville de Baraka à l'intérim a créé un cadre de concertation CRAD. Pour elle, l'idée est de mettre ensemble toutes les couches sociales et favoriser la cohabitation pacifique face à une crise extrême observée depuis les affrontements dans les moyens plateaux de Bobokoboko. Au cours du lancement de ces cadres de concertation, les Babouari, les Banyamulenge venus des moyens plateaux et les Babembe de Baraka se sont retrouvés pour la première fois au mois de février dernier à Baraka, 5 mois après la crise de Bibokoboko. Emérite Tabisha.
Depuis l'année passée, nous sommes en train d'organiser des rencontres de conscientisation et de sensibilisation parce que nous sommes les premières victimes par ce conflit armé et politique. Cette semaine, nous aurons toute une série de rencontres de sensibilisation, des rencontres de dialogue pour trouver des solutions locales. La recherche de la solution sur le conflit de cohabitation pacifique entre Baraka et Bibokoboko.
Pour cette journée, même si les femmes d'Ubuari ou des moyens plateaux n'ont pas fait le déplacement vers Baraka, l'autorité urbaine reste optimiste pour la fin de la crise. Douvira Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombe, lancement hier lundi 7 mars 2022 à Inongo, chef-lieu de la province, du projet Mobali Ponamwasi, un projet de l'ONG internationale Trias. C'est le secrétaire exécutif et porte-parole du gouvernement provincial du Maïndombe, maître Stéphane Ikoko, qui a procédé au lancement officiel des activités du dit projet dans la salle Lingomba de l'église catholique Saint-Albert d'Inongo. Pour le responsable des Trias, Albert Matanga, ce projet vise l'égalité du genre entre hommes et femmes qui va aider les femmes d'Inongo à évoluer. Irène Boma pour des explications.
D'après les responsables de l'ONG internationale Trias, ce projet lancé hier lundi à Inongo durera 30 mois et il est financé par la coopération belge développement avec une enveloppe de 800 000 euros pour 3 provinces dont le Maïndombe, le Congo central et le Haut-Katanga. Albert Matanga indique que le projet Mobali Ponamwasi a pour objectif de contribuer à la transformation du genre au sein de la population rurale. Le dit projet va s'exécuter d'abord en coopérative à Inongo et cela va permettre l'autonomisation de la femme de ces territoires, a-t-il dit.
La femme du Maïndombe et les jeunes souffrent encore d'une marginalisation presque extrême. Le projet a été mis en œuvre pour aider ces femmes et ces jeunes, qu'on leur donne un peu la chance d'évoluer, que les femmes et les jeunes, surtout les femmes, aient une dignité comme toutes les autres nations du monde en égalité entre hommes et femmes. Dans un premier temps, Trias va exécuter ce projet au niveau du territoire d'Inongo. On commence avec les coopératives.
Albert Matanga sollicite l'implication des uns et des autres, surtout des autorités politico-administratives, afin que le projet Mobali Ponamwasi soit un succès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pour clore ce chapitre, les femmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont profité de la journée du 8 mars aujourd'hui pour présenter leur mémorandum à leur ministre des tutelles dans son cabinet de travail. Dans ce document, ces femmes se plaignent de la non-représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité dans toutes les structures sanitaires du pays. Bien que le président de la République a beaucoup insisté sur la prise en compte de la masculinité et féminité dans les administrations respectives, ces femmes ne peuvent pas comprendre qu'elles soient toujours marginalisées, violentées sous toutes les formes et non considérées malgré leur capacité intellectuelle et managériale avérée. Suivez Emilia Mtumba, cadre à la direction des soins de santé primaires au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Au micro de Blaise Chindani Kambala.
Nous avons deux directions générales quand nous voyons même dans la répartition, dans les responsabilités au ministère de la Santé, il n'y a pas de femmes qui est prise en compte. Nous avons deux directions générales que les hommes occupent. Nous avons 10 directions et dans ces 10 directions, nous avons qu'une seule direction qui a une femme qui répond pour l'intérim. L'intérim d'un directeur qui a talonné une femme que nous revendiquons aujourd'hui que cette femme puisse redresser sa figure. Nous avons 52 programmes, mais 44 est représenté par les hommes et 8 seulement pour les femmes. Nous avons 26 DPS et dans les 26 DPS, il n'y a que une seule division de la santé représentée par une femme et 25 par les hommes. Nous avons 25 inspections de la santé. Il y a seulement Katanga où il y a une femme et les 25 c'est pour les hommes. Et voir cette répartition, nous voyons que la femme n'est pas considérée. Or, le président de la République a été dans une réunion avec notre secrétaire général de la santé où il nous a rappelé que le chef de l'État a mis l'accent sur la représentativité de la femme dans nos activités.
Réconforter la population de l'Est de la RDC, en particulier celle du Nord Kivu et l'Ituri, victimes des tueries et plusieurs formes d'atrocités, c'est l'objet de la visite du père de l'Église catholique, le pape François, en juillet prochain. C'est ce qu'a déclaré hier à Goma l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy. À la tête d'une forte délégation des évêques, ce dernier a rencontré hier dans la matinée le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima, sur les préparatifs de cette visite historique. Quelle importance revêt cette visite au Nord Kivu pour l'archevêque de Bukavu? En plus de prier pour la population victime, le pape va apporter un message de réconciliation au peuple congolais. Mgr François Maroy, dans cet extrait choisi par Sifa Maguru.
Le pape vient comme père de grande famille. La première chose pour le pape, c'est de réconforter le peuple de Dieu, catholique en général et en particulier toute la foule du peuple congolais en général, sur cette consolidation de la foi en Jésus-Christ. De la deuxième mission, il vient ici parce qu'il a un objectif. Il sait combien le peuple de Dieu au Congo a été fortement sinistré pendant toutes ces années de souffrance. Le pape vient nous réconforter, prier avec nous pour qu'avec lui nous présentions aussi notre prière à Dieu avec le souci qu'il nous bâtira un Congo où il fait beau vivre. Et la troisième chose, c'est de prier pour que le peuple congolais soit réconcilié. Je crois qu'avec ça, il va toucher nos cœurs et nos cœurs vont comprendre que nous n'avons aucun intérêt à vivre les confrontations inutiles, les conflits inutiles. Mais nous devons bâtir un seul peuple, peuple de Dieu au vrai sens du mot.
En Ituri, 22 personnes, dont 6 militaires des FRDC, ont été tuées ce mardi par le groupe armé Codeco à Kilomission et dans un quartier de Mongwalou à 85 km au nord de Bunia dans le territoire du Djougou. Selon des sources concordantes, la majorité des victimes sont des déplacés qui avaient trouvé refuge à la paroisse catholique de Kilo. Les notables et autorités coutumières locales demandent au gouvernement de stopper les meurtres à répétition des paisibles citoyens par cette milice. Dans le Haut-Katanga, présentation ce lundi au gouverneur de province des bandits armés qui sèment la terreur dans la ville par le commissaire provincial de la police à titre intérimaire. Le gouverneur du Haut-Katanga, qui a salué ce joli coup de filet, a néanmoins déploré la reprise de la criminalité dans la ville et a promis de mettre les moyens à la disposition des forces de sécurité pour démanteler tous les réseaux des malfrats. Jean Gandou pour les détails.
Parmi les présumés bandits présentés à l'autorité provinciale se trouvent ceux arrêtés dimanche dernier dans la commune de Ouachi à Lubumbashi. Ce jour-là, les éléments de la police s'étaient rendus pendant la journée au quartier Kaoma 3 sur l'avenue Joseph Kabila pour mettre la main sur des bandits retranchés dans une maison. Et il y a eu échange de tirs nourris qui ont duré plusieurs heures, obligeant ainsi les habitants de ce quartier à rester terrés chez eux. Les forces de la police et de l'armée auxquelles se sont joints les éléments de la garde républicaine sont parvenus à les maîtriser. Le bilan fait état d'un bandit neutralisé, d'un officier de la police blessée. D'après la police, ce sont les éléments très dangereux auteurs de plusieurs actes criminels. Les forces de sécurité ont aussi récupéré 4 armes de guerre. Une prouesse saluée par le gouverneur Jackie Aboula, qui s'engage à appuyer les forces de sécurité pour combattre la criminalité dans la ville.
Nous avons constaté avec regret que dans la ville de Lubumbashi, il y a reprise de la criminalité. Avec cette opération, nous commençons à comprendre ce qui est en train de se passer et je crois que nous n'allons pas laisser le bras. Nous allons encourager de sorte que vous fassiez convenablement votre travail pour mettre fin à ce phénomène de criminalité qui inquiète notre population.
À noter que parmi ceux qui étaient présentés au gouverneur de province se trouve un officier des FRDC accusé d'être le fournisseur d'armes à ces bandits qui ont déjà endeuillé de nombreuses familles. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous parlons justice. Le ministère public a requis la peine capitale contre Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. À l'audience publique d'hier lundi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, la défense de Cambéré a plaidé non coupable après avoir démontré, selon le conseil du prévenu, l'arbitraire, l'absence des preuves de l'accusation portée contre Cambéré ainsi que la violation du droit de la défense. Notre client n'a été confronté à personne, soi-disant, ayant subi un préjudice quelconque. Il s'agit d'un règlement des comptes politiques, déclare Maître Papi Moukena. La cause a été prise en délibéré pour rendre le verdict en déant 8 jours. Je vous propose ici la réaction de Ferdinand Cambéré au sortir de l'audience d'hier, à propos recueilli par Guy Maté.
Je pense que c'est un grand moment. Appelé par les réquisitions du ministère public, a été condamné pour la peine capitale. Pour des fins que le professeur Nyabiru doit qualifier de bénin, de querelles, de cabaret. Et le fait que moi-même, je n'ai jamais reconnu, parce que victime, comme ça a été démonté par mes avocats, d'une cabale, monter sa maman, par et bien d'autres. Ce procès m'a permis de comprendre que ce mouvement qui s'appelle révolutionnaire et qui cherchait ma tête est passé par le canal de Hossein Nyabiru pour finalement ma tête. Parce que c'est ce poste qui vante ça comme étant juté. Ils ont attendu que je sois vanté pour que nous apprenions que c'est à quoi les partis se posaient, c'est-à-dire la CENI que nous voyons les malades aller. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas donc surprenant que peut-être déjà est sollicité déjà ce poste-là, profitant du fait que je sois en détention.
Rappelons que c'est depuis le 20 décembre 2021 que Ferdinand Cambéré a été arrêté et détenu à la prison centrale de Makala pour coups et blessures sur un collègue de son parti avec qui il n'y a jamais eu confrontation devant le tribunal, sa plainte ayant été retirée. Mais le ministère public a décidé de le poursuivre, puis il l'a requalifié l'infraction initiale en une tentative de meurtre présumé.
Actualité internationale.
Le Burundi attend encore quelques avancées pour établir ses relations avec le Rwanda, alors que le pays voisin a rouvert lundi toutes ses frontières terrestres qui étaient officiellement fermées depuis l'apparition des premiers cas de Covid-19 en mars 2020. Le Burundi a décidé de maintenir ses barrières baissées. Selon la diplomatie burundaise, il reste encore plusieurs points à régler pour normaliser les relations avec le Rwanda, notamment la question des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de 2015 au Burundi. La récente rencontre entre les ministres de la justice des deux pays n'a pas permis de trouver un terrain d'entente sur le sujet. Un petit groupe d'étudiants tanzaniens a quitté en urgence l'université de médecine de Sumy en Ukraine pour se réfugier dans la ville russe de Koursk. Le recteur de l'université d'état de médecine de Koursk est venu les accueillir en personne. Il faut dire que les derniers jours ont été difficiles pour le petit groupe d'étudiants tanzaniens qui a fui la guerre en Ukraine. Ils ont dû quitter en urgence la ville de Sumy pour rejoindre 50 km plus loin de l'autre côté de la frontière russe, la ville de Koursk.
L'invité.
Notre invité, c'est Madame Jaël Kaïba Ilunga, présidente provinciale de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Maniema. Elle nous parle de la situation de la femme du Maniema qui est dépourvue d'un pouvoir économique conséquent pour lui permettre de s'épanouir. Madame Jaël Kaïba Ilunga s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Jaël Ilunga, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Présidente de FENAPEC Maniema, comment évolue votre fédération?
Merci beaucoup, Madame. Pour la question, la FENAPEC évolue très bien, mais il y a des difficultés à cause des femmes. Comme notre thème nous dit cette année que l'autonomisation de la femme, nous demandons à ce que la femme de Maniema soit autonome dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand on parle de l'autonomisation, on parle de dire que cette femme-là est mentalement éduquée, cette femme-là a un pouvoir économique ou financier, cette femme-là a le pouvoir de son travail, parce que c'est lui-même qui a créé ce travail, cette initiative, cette activité commerciale. Cette femme a un discernement pour qu'elle puisse orienter ce travail, que ça puisse aller de l'avance. Alors, pour la province de Maniema, nous voyons qu'il y a une difficulté pour les femmes. Or, dans l'autonomisation, c'est-à-dire tout le monde attend de voir une réussite, un avancement, un changement, une croissance dans cette activité-là. Puis la FENAPEC est là, c'est pour que la femme soit autonome. La FENAPEC est là, c'est pour que les femmes puissent connaître et se prendre en charge. La FENAPEC est celle de la province de Maniema pour que les femmes viennent en synergie. Parce qu'on dit l'union fait la force. Si les femmes sont en synergie dans une activité ou dans un domaine quelconque, ce domaine-là va aller de l'avance. Avec cette année 2022, nous voulons que les femmes puissent maintenant prendre conscience, à venir à la FENAPEC, connaître quel est le secret de la FENAPEC dans la province de Maniema, puis chercher à ce que la province puisse être promue à cause des femmes, que les femmes puissent faire quelque chose qui va s'égrer dans la province de Maniema qu'on voit dans d'autres provinces.
Vous avez combien de membres à la FENAPEC et parmi combien de femmes?
Nous avons beaucoup de membres à la FENAPEC, mais la majorité sont les hommes. Pour les femmes, nous avons seulement une femme qui est capable à la province de Maniema comme membre de la FENAPEC.
Pourquoi cette situation?
Oui, cette situation est là parce que les femmes de Maniema ne savent pas se prendre en charge. Comme la femme a un pouvoir très limité, elle n'arrive pas à se prendre en charge. C'est-à-dire, à la FENAPEC, pour devenir membre, vous devez payer une caution pour avoir d'abord une fiche d'affiliation. Après la fiche d'affiliation, il y a une cotisation mensuelle. Mais les femmes n'ont pas cette capacité. Ils n'arrivent pas à faire cela parce que dans leur capital, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas de capital sérieux qui peut les avancer de l'avance. Et ils ne savent pas se prendre en charge, c'est-à-dire dans les groupes. Quand on est en groupe dans une organisation quelconque, il y a une idée primordiale qu'on vous invite là-bas pour que vous puissiez promouvoir ce que vous êtes en train de faire.
Vous venez de nous dire là que la femme du Maniema manque un capital pour faire avancer ces choses. Quel conseil à la femme de la province du Maniema pour qu'elle aille de l'avant?
Le conseil à la femme, c'est de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Depuis que nous avons commencé avec le 8 mars, c'est non seulement pour porter l'épargne, pour fêter, prendre du riz, et ainsi de suite, non. Ou pour dire que nous sommes égales avec les hommes, non. Cette journée, on donne, c'est une journée de réflexion, de voir comment est-ce que nous sommes en train de travailler, comment est-ce que nous sommes en train de nous situer dans la province de Maniema, dans les activités que nous sommes en train de faire, dans le travail, dans le bureau, partout où nous sommes, même dans les marchés, quel est notre comportement, quel est le changement, quelle évolution que nous avons atteint depuis que nous avons commencé à fêter le 8 mars. En plus de cela, nous plaidons aussi aux hommes. Si vous donnez un capital à une femme, essayez de l'encadrer, pas de d'amener beaucoup de charges de la famille, du foyer, tout c'est dans. Si vous avez donné 100 000 francs, dans les 100 000 francs, il faut que la femme puisse travailler pour payer les loyers, il faut que la femme travaille pour payer les études des enfants, scolariser les enfants dans cette même capitale, pour payer la ration chaque jour. Non, la femme doit aussi être, on peut lui donner aussi cette capitale uniquement pour les affaires, mais pour d'autres choses qui viennent, pour le temps, vous pouvez d'abord la détacher et vous allez voir comment elle va évoluer. Quand elle va évoluer, elle va attendre de grandes sommes d'argent, de cette manière que vous devez associer d'autres occupations de la maison. Mais si elle est surchargée, elle ne va pas aller très loin. Et l'homme doit être là pour l'encadrer avec des conseils et surtout compagnie aussi. Et s'il y a des séminaires, laissez les femmes venir dans les séminaires pour qu'elles puissent avoir de l'instruction mentale, pour avoir des directives, des orientations pour diriger l'activité qu'elle est en train d'effectuer.
Et aux autorités?
Aux autorités, nous demandons aussi la sensibilisation. Dans la province de Maniema, nous n'avons pas même la banque pour l'accompagnement. Banque agricole, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un séminaire où l'autorité a organisé pour sensibiliser les femmes, pour savoir leurs difficultés. Comment est-ce que les femmes évoluent? C'est comme nous avons ici aujourd'hui notre ministre de l'économie dans la province. Est-ce qu'elle a invité les femmes pour savoir comment nous vivons? Comment est l'économie du Maniema? On met des femmes. Combien de femmes qui ont des capitaux? Combien de femmes qui sont dans de telles activités, de l'activité? Quand il y a une autorité comme ça, qu'on donne aussi l'accès aux femmes de parler à une autorité, de savoir sur les difficultés que nous avons dans la province. Comme il est là même mois de la FENAPEC, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Parce qu'il y a toujours des crocages. Nous ne savons pas comment atteindre l'autorité pour parler avec lui les difficultés que nous avons dans la province.
Madame Jaël Ilunga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Élisée Chikota et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour votre sympathique attention.